de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. Message du président Joko Widodo au prochain président de ne pas arrêter en aval. Ministre des Affaires étrangères concernant la nouvelle carte de la Chine. Les revendications territoriales doivent être conformes à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Le ministre de la Main-d'œuvre souligne les réalisations de la coopération Indonésie-Malaisie. L'ATMA SGS 2023 est l'occasion de partager des connaissances, a affirmé le commandant en chef de TNI. L'ambassadeur des Pays-Bas invite le peuple indonésien à réfléchir aux défis auxquels sont confrontés les journalistes. Le président sud-coréen participera au sommet de l'ASEAN pour renforcer la coopération. La junte du Niger prend un arrêté d'expulsion de l'ambassadeur de France. Voici le journal complet. Le président indonésien Joko Widodo a conseillé au prochain président élu pour la période 2024-2025 de ne pas arrêter l'industrie navale que le gouvernement a fait actuellement. Ce message a été transmis par le président Joko Widodo lors de l'ouverture de la 18e réunion de travail national de l'Association indonésienne des jeunes entrepreneurs en 2023 dans la région de Tangerang, Banten, jeudi 31 août. Malgré les pressions de l'Union européenne, de l'Organisation mondiale du commerce et du Fonds monétaire international, le président a demandé au prochain président de ne pas démissionner et de ne pas arrêter. Le président Joko Widodo a demandé que l'industrie en aval continue d'arrêter l'exportation de matières premières, même si l'Indonésie a perdu les procès intentés par l'Union européenne par l'intermédiaire de l'Organisation mondiale du commerce. Outre que l'Organisation mondiale du commerce, le Fonds monétaire international a également demandé au gouvernement de considérer la suppression de la politique d'interdiction des exportations de nickel et de ne pas l'étendre à d'autres produits. Selon les calculs du ministère de la Planification et du Développement national, Agence nationale de planification et du développement, si l'aval est arrêté, l'Indonésie perdra un revenu par habitant d'environ 25 000 de dollars américains en 2045 ou lors de l'Indonésie d'or. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a souligné que le retrait des lignes territoriales, y compris la carte standard de la Chine édition 2023, doit être conforme à la Convention des Nations Unies sur les droits de la mer de 1982 ou CNUDM 1982. C'est ce qu'a déclaré Retno Marsudi après une réunion de travail avec la Commission du Parlement indonésien à Jakarta, jeudi en réponse à la dernière édition 2023 de la carte standard de la Chine publiée lundi 28 août par le ministère chinois des ressources naturelles. Le contenu de la carte revendique des zones situées en Nantes dans les eaux malaisiennes jusqu'à la proximité de l'Indonésie. Retno Marsudi a déclaré que l'Indonésie a toujours été cohérente en termes de souveraineté territoriale. Mercredi 30 août, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, avait exprimé l'espoir que chaque partie n'exagère pas dans l'interprétation de la nouvelle carte du pays. La nouvelle carte chinoise couvrirait des parties des zones maritimes de la zone économique exclusive ZEE de la Malaisie, près de Sabah et Sarawak, de Brunei, des Philippines, de l'Indonésie et du Vietnam. La ministre de la Main-d'œuvre de la République d'Indonésie, Ida Fauzia, est optimiste quant au fait que les relations bilatérales entre l'Indonésie et la Malaisie resteront solides dans un contexte mondial plein d'incertitudes. Dans son discours lors de la célébration du 66e jour de l'indépendance de la Malaisie, jeudi 31 août à Jakarta, Ida Fauzia a déclaré que l'Indonésie et la Malaisie étaient fermement engagées à accroître leur coopération dans divers domaines. Selon Ida Fauzia, la Malaisie est le deuxième plus grand partenaire commercial de l'Indonésie avec le cinquième montant d'investissement en 2022 dans l'ASEAN. Pendant ce temps, dans le secteur sous-régional, les deux pays travaillent activement ensemble dans le cadre du triangle de croissance Indonésie-Malaisie-Thaïlande et des mécanismes de la zone de croissance de l'Asie de l'Est, de Brunei Darussalam, Indonésie-Malaisie-Philippines. Je voudrais profiter de cette occasion pour souligner les réalisations des deux pays dans le domaine du partenariat économique, notamment en matière de commerce et d'investissement. Ida Fauzia a en outre déclaré que l'Indonésie était consciente de l'importance d'une collaboration inclusive entre les pays développés et en développement à travers le monde. Par conséquent, dans le cadre de la présidence du G20 en 2022 et de la présidence de l'ASEAN en 2023, l'Indonésie s'est engagée à accroître la capacité collective pour assurer la prospérité entre les nations grâce à divers efforts dans divers secteurs. À cet égard, le soutien de la Malaisie et de tous les pays amis est réellement nécessaire pour garantir les meilleurs résultats à l'Assemblée de la communauté. Le commandant en chef du TNI, l'amiral TNI Yudo Margono, a dirigé jeudi la cérémonie d'ouverture de la formation conjointe Super Garuda Shield 2023 à Baluran, Situbondo, dans l'est de Java. Après la cérémonie, Yudo Margono a déclaré que l'exercice conjoint Super Garuda Shield LATMA SGS 2023 impliquait 2810 soldats de l'armée nationale indonésienne, armée de terre, marine, armée de l'air et 2165 soldats étrangers. Cette formation est l'occasion de partager des connaissances sur l'amélioration des capacités et du professionnalisme des soldats du TNI. Les soldats étrangers venaient de 17 pays, dont les États-Unis, l'Australie, le Japon, Singapour, l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande, la France, l'Allemagne et le Timor-Leste. L'exercice s'est déroulé du 21 août au 13 septembre 2023. Super Garuda Shield 2023 est l'exercice militaire conjoint initié par l'Indonésie et les États-Unis depuis 2007. L'ambassadeur des Pays-Bas en Indonésie, Lambert Grains, inviter le public à réfléchir aux défis rencontrés par les journalistes et les photographes pour capturer des moments qui façonnent la compréhension des gens sur les conditions mondiales actuelles. Il a transmis cette invitation lors de l'ouverture de l'exposition mondiale de photojournalisme 2023 au Centre culturel néerlandais Erasmus Huis à Jakarta jeudi 31 août. Lambert Grains invite le public à se rappeler que chaque image affichée est le résultat d'un dévouement, d'un courage et d'une forme d'engagement envers la vérité. L'exposition mondiale de photojournalisme 2023 a eu lieu du 1er au 23 septembre 2023 à Erasmus Huis, Jakarta. L'exposition se poursuivra du 1er au 23 octobre 2023 au Pendapa Art Space, Yogyakarta. Cette exposition présente les travaux des 24 lauréats du concours mondial de photojournalisme 2023 et 6 mentions honorables. Les œuvres présentées mettent en avant des sujets importants tels que la crise climatique, l'impact de la guerre sur la société civile et l'importance de la photographie journalistique dans le monde. Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol participera à un sommet régional avec l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, ASEAN, à Jakarta. C'est ce qu'a annoncé jeudi le bureau présidentiel sud-coréen. Yoon sera à Jakarta du mardi au vendredi de la semaine prochaine pour assister au sommet Corée du Sud-ASEAN, au sommet ASEAN plus 3 et au sommet de l'Asie de l'Est, EAS. Yoon tiendra également une réunion bilatérale avec le président Joko Widodo dans le cadre de sa visite officielle en Indonésie. C'est ce qu'a déclaré le conseiller adjoint à la sécurité nationale, Kim Tae-yu, aux journalistes. La première dame, Kim Kien-hee, accompagnera Yoon lors de la visite. Kim Tae-yu a déclaré que le président Yoon soulignera l'importance de l'ASEAN pour la Corée du Sud en assistant directement au sommet de l'ASEAN pour la deuxième fois consécutive. Le président Yoon promouvera l'initiative de la solidarité Corée-ASEAN au CASI à travers des plans visant à renforcer la coopération dans le domaine de cybersécurité et de la sécurité maritime ainsi que des projets de coopération dans le domaine de l'innovation numérique. La junte militaire nigérienne a ordonné jeudi à l'ambassadeur de France, Sylvain Ité, de quitter le Niger dans les 48 heures. La junte a déclaré que l'ambassadeur de France n'avait plus d'immunité diplomatique et que la police avait reçu le droit de l'expulser du pays. Cette décision répondait aux actions du gouvernement français jugées contraires aux intérêts du Niger. La junte a également déclaré que le visa d'Ité et de sa famille avait été annulé. Auparavant, le président français Emmanuel Macron a déclaré qu'Ité resterait au Niger malgré les pressions de la junte. Macron a réitéré le soutien de la France à l'ancien président des Chouds du Niger, Mohamed Bazoum. Ces auditeurs, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de commentaires d'aujourd'hui, intitulée « Carte standard de la Chine, édition 2023 ». Vous êtes avec moi Audrey. Chargé tard, le ministère chinois des ressources naturelles a publié lundi 28 août 2023 l'édition 2023 de la carte standard de la Chine, qui contient des revendications élargies dans la mer de Chine méridionale ainsi que dans les zones terrestres d'autres pays. Plus précisément, dans la mer de Chine méridionale, le conseil du territoire du pays est passé de 9 lignes pointillées à 10 lignes pointillées. La ligne à 9 traits revendiquait auparavant la mer depuis les îles Paracel, que le Vietnam et Taïwan revendiquent également jusqu'aux îles Spratly, contestées par les Philippines, Brunei, la Malaisie, Taïwan et le Vietnam. Dans le nouveau conseil de ligne à 10 tirés, la Chine a également inclus Taïwan dans son territoire. La dernière carte chinoise couvre des parties de la zone économique exclusive maritime de la Malaisie, près du Sabah et du Sarawak, de Brunei, des Philippines, du Vietnam et même de l'Indonésie. En outre, des zones contestées avec l'Inde sont également revendiquées, notamment les États de l'Arunachal Pradesh, de l'Himalaya oriental à du plateau de Doklam. L'affirmation de la Chine dans l'édition 2023 de la carte standard de la Chine a suscité de vives protestations de la part de plusieurs pays. L'Inde a émis une forte protestation contre cette affirmation unilatérale. Le porte-parole du ministère indien des Affaires étrangères, Arindam Bagchi, a déclaré que son parti avait dépassé une vive protestation par la voie diplomatique auprès de la Chine concernant la carte standard qui revendiquait le territoire indien. Arindam Bagchi estime que la revendication multilatérale de la Chine ne résout que le règlement des problèmes frontalières. Outre l'Inde, le gouvernement malaisien a également vivement protesté contre la carte standard de la Chine qui a été publiée lundi 28 août. Le ministre malaisien des Affaires étrangères, Zamri Abdul Kadir, a déclaré jeudi 31 août 2023 que son pays enverrait une lettre de protestation à la Chine. La Malaisie ne reconnaît pas les revendications de la Chine sur la mer de Chine méridionale et la carte n'a pas de valeur contraignante. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, lors de la conférence de presse régulière du 30 août 2023, a expliqué que l'édition 2023 de la carte standard de la Chine est une pratique courante dans la mise en œuvre de la souveraineté de la Chine conformément à la loi. Wang Wenbin espère que les parties concernées pourront rester objectives et calmes et ne pas surinterpréter cette affaire. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, citée par l'agence de presse Antara, a souligné jeudi 31 août que le tracé de lignes territoriales, y compris l'édition 2023 de la carte standard de la Chine, doit être conforme à la Convention des Nations Unies de 1982 sur droit de la mer, UNCLOS 1982. L'affirmation de la ministre indonésienne des Affaires étrangères doit être prise en compte par le gouvernement chinois, qui est l'un des premiers pays à avoir signé la SNUDM en décembre 1982 et à la ratifier en 1996. La Chine doit être fidèle à la mise en œuvre de la CNUDM de 1982. En respectant les pouvoirs souverains et de contrôle, droits des Philippines, de Brunei, de la Malaisie, de Taïwan, du Vietnam et de l'Indonésie. Bien entendu, il ne faut pas revendiquer la zone maritime de base sans droits légaux en vertu du droit de la mer applicable. Bon chargeur et tard, c'est tout. Le commentaire.
La Voix d'Indonésie revient à la tenue du Voice of Indonesia International Quiz 2023. Cette année, le Quiz International Voix de l'Indonésie 2023 se trouve sous la forme d'un concours d'écriture sur l'une des cinq destinations touristiques super prioritaires d'Indonésie, Borobudur, Lac Toba, Likupang, Mandalika et Labuan Bajo, avec une longueur de 700 à 800 mots. Ariel 12 et les dossiers au courriel voequiz2023@gmail.com. Concours de rédaction ouvert du 10 avril au 25 septembre 2023. Pour les personnes sélectionnées comme gagnants, une personne pour chaque service linguistique recevra des prix attractifs de la Voix d'Indonésie. Les gagnants sont annoncés le 27 septembre 2023. Pour plus d'informations complètes, veuillez visiter notre site web www.voinews.id. et Facebook de The Voice of Indonesia. Soyez prêts, qui sait que vous devez l'un des gagnants.
From Indonesia to the world.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 1er septembre 1923, le tremblement de terre secoue l'île de Honshu au Japon. Le tremblement de terre de magnitude 7,9 jusqu'à 8,4 a secoué la région de Kanto, couvrant Tokyo, Kanagawa, Chiba et ses environs, le long de la baie de Tokyo et de la mer de Sagami. Le tremblement de terre s'est produit pendant la journée. Le tremblement de terre a secoué des dégâts considérables dans plusieurs régions du Japon, notamment à Tokyo, Yokohama, Chiba, Kanagawa et Shizuoka. La catastrophe naturelle a tué au moins 105 385 personnes. Le 1er septembre 1958, la guerre éclate entre l'Islande et l'Angleterre. La guerre de la Mauro entre l'Angleterre et l'Islande a éclaté dans les eaux situées à l'extérieur de l'Islande le 1er septembre 1958. La guerre a été déclenchée par l'expansion de son territoire maritime par l'Islande afin d'élargir sa zone de pêche à la Mauro. La guerre a duré 12 jours. Après la guerre, la Grande-Bretagne a reconnu la revendication de l'Islande sur une extension de sa domination maritime de 12 milles. Quelques années plus tard, le conflit recommence. L'Islande a annoncé qu'elle étendrait la limite de 12 milles jusqu'à 50 milles et entrerait en vigueur le 1er septembre 1972. Le 1er septembre est la journée de la policière. La journée des femmes policières ou Polwan est célébrée chaque 1er septembre. Ce jour de commémoration est déterminé en fonction de l'anniversaire de Polwan, à savoir le 1er septembre 1948. L'histoire de la naissance de Polwan ou des femmes policières commence dans la ville de Bukit Tinggi, à l'ouest de Sumatra, lors de la lutte pour faire face au retour des Néerlandais. À cette époque, pour éviter les attaques des Néerlandais, les Indonésiens ont fui partout. Pour éviter les intrus, les personnes déplacées doivent d'abord être fuyées. Mais beaucoup de femmes ne veulent pas être interrogées par des policiers masculins. En réponse à cette question, le gouvernement a demandé à l'École nationale de police de Bukit Tinggi de rechercher des femmes susceptibles à devenir policières. La sélection a été faite. 6 adolescentes d'origine de Minangkabau ont été sélectionnées comme première femme policière. Il s'agit de Mariana Sanin Mufti, Nelly Pauna Situmorang, Rosmalina Pramono, Dahniar Sukoco, Jasminar Hussein et Rosnalia Taher. Le 1er septembre 1948, ces 6 femmes sont officiellement devenues policières et ont commencé à suivre une formation inspecteur de police à l'école de police de l'État de Bukit Tinggi. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Aku yang selalu
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était belle la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Sejuritak bonsoir, voici mon Indonésie, dont le titre est Le Wisma Arof a demandé d'optimiser la zone industrielle halal existante. Le vice-président indonésien Maruf Amin a demandé que les zones industrielles halal existantes soient optimisées pour renforcer l'écosystème et le financement de la charia. Cette demande a été soumise lors de l'atelier sur l'économie, la finance de la charia et l'inauguration de la zone culinaire halal sur SN à l'ITS 10 novembre à Surabaya, Java East, le mercredi 30 août dernier. Cité par Antara, le vice-président Maruf Amin a déclaré que le potentiel de la province de Java East en tant que destination touristique halal de standard mondial doit continuer à être renforcé. La zone industrielle halal et le tourisme halal font partie de l'infrastructure économique de la charia. Le renforcement des infrastructures économiques de la charia s'effectue en ligne avec le renforcement de l'accessibilité entre les régions, y compris l'utilisation de la technologie numérique intégrée dans tous les secteurs économiques et financiers de la charia. Le vice-président Maruf Amin a expliqué que l'accélération de la certification halal devait être une priorité partagée. Selon le vice-président, l'objectif n'est pas seulement d'étiqueter halal comme auparavant, mais de garantir que les produits sont halal et bons pour la consommation publique. Dans le but de développer la résilience économique et financière de la charia, le vice-président Maruf a rappelé la nécessité d'encourager plusieurs efforts, notamment l'expansion d'un réseau d'écosystèmes collaboratifs et propices. Le vice-président a encouragé les écosystèmes et les communautés telles que les internats islamiques à produire des moudjahides ou des combattants économiques. Les internats islamiques, en plus d'être des centres de da'wah qui diffusent la compréhension religieuse, ont également un rôle à jouer dans le renforcement de l'économie de la communauté. Le programme d'indépendance largement connu dans les internats islamiques est OPOP ou One Person Train, One Product. En dehors de cela, selon le vice-président Maruf Amin, des efforts doivent être faits pour encourager les entreprises et l'entrepreneuriat de la charia innovant et créatif. L'Indonésie a besoin d'entrepreneuriat capable d'explorer et de mettre en valeur les avantages des ressources régionales tout en préservant l'environnement. C'est Jurita, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Jalan mengganti malam.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission des magazines culturels. Cette fois, je vais vous présenter le village touristique de Dewi Chika Cipta Karya, de Kalimantan occidental, avec moi Audrey. Chers auditeurs, le village touristique Dewi Chika Cipta Karya à Bengkayang, Kalimantan occidental, a remporté le titre de village touristique préféré au niveau national lors de l'événement 2023 Indonesian Tourism Village Award à Dewi, organisé par le ministère indonésien du tourisme et de l'économie créative. Ce village touristique est le village touristique le plus regardé et apprécié sur la chaîne YouTube Kemen Parekraf lors de l'événement à Dewi 2023. Le village touristique de Chika est connu comme producteur de caoutchouc et de poivre. Ce village compte quatre destinations touristiques de premier plan, à savoir la colline Sepadan, la colline Salapar, les collines Riam, Palayo et Pejamet. Ces quatre destinations touristiques sont fréquemment visitées par les touristes. Chers auditeurs, depuis la région de Bengkayang, le village touristique de Chika est accessible en 15 minutes environ. Le village, formé en 1988, est le résultat de la fusion de cinq villages, à savoir le village de Ketiat, le village de Riam Palayo, le village de Seburo, le village de Lamat Semalat et le village de Selum. En visitant ici, vous ressentirez à quel point le village de Chika est beau et cool. Ce village a la transition principale sous la forme de la colline de Sepadan. La colline de Sepadan est un plateau qui est encore très beau. Pour atteindre cette colline, il faut parcourir 1800 mètres. Tout au long de la montée, vous trouverez des forêts de bambous presque à mi-chemin du sommet de la colline. D'une hauteur de 500 mètres, ce lieu dispose également de trois postes de repos et d'un jardin d'orchidées, ce qui est tout à fait unique car il y a des bambous disposés comme des robinets d'eau. En dehors de cela, il y a aussi la colline Salapar qui est une attraction touristique au pied du mont Bawang. Cette attraction touristique offre une vue panoramique sur les collines qui lui font face. Autour de la colline de Salapar, il y a une zone de fleurs de Rafflesia qui poussent et se reproduisent dans cette zone. En plus de cela, il y a une cascade claire avec de l'eau qui coule jusqu'aux cuisses. Habituellement, les visiteurs se baignent et s'imprègnent en dessous. Vous pouvez également visiter la cascade Riam Palayo qui mesure 10 mètres de hauteur. Ce lieu touristique est très riche en une variété d'animaux et de plantes rares, ce qui constitue l'une des attractions de ce lieu touristique. Chers amis, si vous avez de la chance, vous pourrez assister à un certain nombre de processions traditionnelles, dont le Basansam. Cette tradition est une procession traditionnelle destinée à purifier le village de toutes les mauvaises choses, telles que les maladies, les ravageurs, les catastrophes, etc. Après le rituel traditionnel, des offrandes seront jetées dans la rivière à la sortie du village. Il est intéressant de noter que les habitants se sont rassemblés pour livrer les offrandes en portant des vêtements traditionnels. Outre la tradition Bassansam, vous pouvez trouver diverses attractions culturelles dans le village de Chiptakaria, comme le jeu de Sarbakan, la fabrication d'instruments de musique en sap et le gazage du panka. La sap est un instrument de musique traditionnelle typique de la tribu Dayak, fabriqué à partir de bois d'aro ou d'adao, de bois de marron et de bois de platanan que l'on trouve souvent dans les forêts du Kalimantan. Bon, cher Joïtar, c'est tout, le magazine culturel.
Kau kan mencintamu selalu.
Serge Littard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de l'Indonésie en couleur, intitulée « Les étudiants de l'université d'Andalas créent un bonbon dur innovant pour soigner les rhumatismes ». Vous êtes avec moi Audrey. Serge Littard, une équipe d'étudiants de l'université d'Andalas, Unand, à l'ouest de Sumatra, a réussi à créer ou à innover des bonbons durs à partir de composés de catéchine de gambier utile pour guérir les maladies rhumatismales. Cette innovation a remporté une médaille d'or lors du premier événement ARAO International Creativity Expo organisé par l'Université Perlis de la Malaisie. Le représentant de l'équipe étudiante d'Unand, Refa Rahmadiansyah, a déclaré que l'innovation consistant à fabriquer des bonbons durs à partir de catéchine de gambir avait permis de réaliser des réalisations prestigieuses dans les catégories de la médecine, du biomédical, des soins de santé et des cosmétiques. Serge Littard Refa a expliqué que les bonbons durs qu'il a créés contenaient des composés de gambir appelés catéchine. Les catéchines elles-mêmes ont été largement explorées pour leurs propriétés antibactériennes, anti-inflammatoires, antifongiques et anticancéreuses. Pendant ce temps, l'innovation spécifique créée par les étudiants d'Unan se concentre davantage sur les anti-inflammatoires. Plus précisément, les bonbons durs contenant des composés de catéchine sont conçus pour guérir l'inflammation liée aux maladies rhumatismales, y compris les maladies de l'articulation des genoux, les maladies liées à l'auto-immunité et celles liées au vieillissement ou à l'âge. Serge Littard à l'avenir, lui et les quatre étudiants médaillés d'or espèrent que cette idée continuera à être développée en tant que produit ayant une valeur économique et bénéficiant à la communauté, surtout pour améliorer l'économie de la communauté, car le gambier est l'un des principaux produits de base de l'ouest de Sumatra. Bon, Serge Littard, c'est tout. L'Indonésie en couleur.
Bayangkan bila kau sebagai yang tak kasat mata, tak dapat disentuh walau kau bisa menyentuhnya. Tak dapat dirasa walau seluruh ragamu di sana. Dapat kau menjaganya tanpa harus mengurungnya. Bayangkan bila kau sebagai yang tak kasat mata, abu yang berterbangan tak dapat melukaimu. Panasnya surya bahkan membuatmu terbuai dan berlaku, dan kau dapat menyusupi rongga jiwa.
jiwa yang kosong. Yeah. Hidupmu bukan terisi dengan ajaran-ajaran melihat, mendengar dan merasakan nadanya yang terlantun dalam setiap nafas hidup manusia. Nafas hidup manusia.
La Voix d'Indonésie revient à la tenue du Voice of Indonesia International Quiz 2023. Cette année, le Quiz International Voix de l'Indonésie 2023 se trouve sous la forme d'un concours d'écriture sur l'une des 5 destinations touristiques super prioritaires d'Indonésie, Borobudur, Lac Toba, Likupang, Mandalika et Labuan Bajo, avec une longueur de 700 à 800 mots. Ariel 12 et les dossiers au courriel voiquiz2023@gmail.com. Concours de rédaction ouvert du 10 avril au 25 septembre 2023. Pour les personnes sélectionnées comme gagnants, une personne pour chaque service linguistique recevra des prix attractifs de la Voix d'Indonésie. Les gagnants sont annoncés le 27 septembre 2023. Pour plus d'informations complètes, veuillez visiter notre site web www.voinews.id et Facebook de The Voice of Indonesia. Soyez prêts, qui sait que vous devez l'un des gagnants.
From Indonesia to the world.
Chers amis, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Sans retard, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour le magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons la chanson de Bouton intitulée Hune. Sarjoita Hune est une chanson folklorique de Bouton qui raconte la beauté de l'oiseau local de Bouton, appelé Hune. En indonésien, cet oiseau est connu sous le nom de Walik Kembang, un type de colombe avec des plumes vertes et un bec et un iris jaunâtre. À Wakatobi, les oiseaux Hune se trouvent souvent sur les banyans qui porte des fruits. Bonjour, Joïtar, voici Yacine Mazadou va chanter une chanson de Bouton intitulée Hune. Bonne écoute.
Musique.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @voixindonesia, d'Instagram, @voice.of.indonesia, joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voix Indonesia, et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt!